Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio.
Cuisine ton quartier.
Cuisine tu barrio.
Cuisine nan quartier avec nous.
Et tabakh haye.
Cuisine quartier.
Cucina nel tuo quartiere.
Et motbakhna.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
Si vous venez manger chez moi, si vous êtes un invité ouvert à déguster des choses, c'est sûr que j'aime bien faire le poulet. Les gens, ils aiment beaucoup comme du poulet, mais nous avons des épices quand même qui sont différentes. Donc, c'est sûr que vous aurez quelque chose d'épicé. Vous pourrez manger aussi des bananes plantains frites. Il y en a plusieurs qui savent c'est quoi. Je fais beaucoup, beaucoup de beignets. Des beignets, c'est comme des bains là que nous faisons de façon, je dirais, traditionnelle. Mais c'est, ça fait beaucoup penser aux... mes garçons, ils disent souvent, c'est comme des Mr. Puff, oui. Parce que quand je les fais, ils mettent du chocolat dessus et puis ils disent que ça fait des Mr. Puff. Bonjour, je m'appelle Henriette Vendor. Bienvenue dans le parcours balado Cuisine ton quartier à la salle. Henriette, c'est l'épouse d'un monsieur, Gilbert Bandé, et la mère de trois merveilleux garçons qui se prénomment Steve, Franck et Carl. Je suis arrivée à Pierre-Éliott Trudeau un 24 septembre 2004 pour espérer un avenir meilleur pour mes enfants, pour donner de nouvelles opportunités et aussi découvrir une autre partie du monde, le Canada, dont on parlait avec beaucoup de bien du pays d'où je viens, le Cameroun. La raison pour laquelle nos immigrants, je parle en tant qu'Africain, souvent hors de notre continent, c'est parfois pas parce que nous sommes déjà en difficulté, mais c'est parce que nous voulons donner un avenir meilleur aux enfants. Parce que parfois, chez nous, ça se passe de façon différente du point de vue des opportunités que donne l'avenir. Vous êtes parfois contraint, si vous n'appartenez pas aux sphères d'un certain pouvoir, de certains dirigeants, de voir vos enfants avoir des fonctions limitées futures dans la vie, quel que soit leur potentiel. Alors, ça nous amène à nous dire, pourquoi pas permettre à ces personnes pour lesquelles nous battons à chaque jour, c'est-à-dire nos enfants, d'avoir des opportunités meilleures, d'avoir droit à des études meilleures, d'avoir droit à des opportunités qui ne sont pas limitées par rapport à leur appartenance de certains cercles de pouvoir ou pas. Malheureusement, je ne fais pas partie de ces personnes qui dirigeaient le pays ou qui avaient des faveurs. Donc, je me suis toujours dit, et c'est ce que mes parents ont cultivé en moi, il fallait que je me batte. Il fallait que je fasse des efforts à chaque jour, que je donne le meilleur de moi pour aspirer à un avenir meilleur. Donc, basé là-dessus, je me battais pour faire ce que je pouvais, mais je voulais aussi donner des chances égales à mes enfants. Partir engendre beaucoup de sentiments qui sont parfois contradictoires. On se sent parfois coupable de débarquer d'un bateau comme un sentiment d'impuissance, mais on se sent aussi comme une guerrière prête à dire « Je peux me battre même vers une terre inconnue parce que je connais mon potentiel. » Je m'ennuie beaucoup de mes liens familiaux parce que je suis seule à avoir immigré au Canada jusqu'à date et j'ai été élevée très soudée, liée, les liens sont vraiment liés entre familles, donc c'est sûr que cette chaleur-là me manque beaucoup. Il y a aussi certaines habitudes que nous avons de par notre culture. Le mode de vie, il est différent. Mais dans la vie, il y a des compromis à faire avec tout. Hein. C'est des choses avec lesquelles on apprend à vivre et on trouve un équilibre entre les deux. Mes premiers mois au Canada, c'était une période pendant laquelle on se sent comme être rien. Être rien, pourquoi? Parce que vous partez quand même d'un environnement dans lequel Vous avez un niveau d'études, j'avais 5 ans d'université complétée, j'occupais quand même des fonctions responsables. Mais vous arrivez dans un pays où on ne vous connaît pas, où vous avez tout à faire, tout à rebâtir, et où vous avez des soucis de survie, et vous ne voulez pas être prise en charge, parce que la solution facile, c'est souvent de se dire « on va aller sur le bien-être social », mais ça vient créer un sentiment de prise en charge qu'on n'avait pas été habitué avec dans la façon dont on a été élevé. Du coup, on se dit, je vais me battre, je vais trouver une activité que je vais faire. Mais c'est là où commencent les premiers défis. Parce que on a une difficulté dans la façon dont on va s'orienter. Les transports en commun, ils sont pas les mêmes que chez nous. Et parfois, notre accent nous ferme des portes parce que on a de la misère à se faire accepter parfois par un potentiel employeur qui va vous rabrouer, qui va vous fermer la porte au nez. C'est des choses auxquelles j'ai fait face. Et le plus difficile encore, c'est de voir le type d'emploi pour lequel on vous dit non. Parce que quand vous vous sentez quand même avec un 5 ans d'université complétée, vous savez qu'est-ce que vous avez à pouvoir donner. Et qu'on vous dise non pour un travail de manufacture, où vous êtes à la limite dévalorisé, même dans le refus, ça vient vous chercher. C'est des choses qui viennent beaucoup vous bousculer. Et parfois, s'il y avait un taxi qui me ramenait au pays, au Cameroun, là, je vous dirais que je l'aurais fait. Là, je serais rentrée à cet moment. Je me disais, ça vaut-tu la peine là, de se ramasser à faire avec tout ceci? Peut-être que... Est-ce que oui, je me suis dit, je partais. Je laissais tout, j'abandonne les amis, la famille. Je suis prête, je suis cette guerrière-là. Je vais retrousser mes manches, je vais faire ce qu'il faut. Mais il y a des jours où vous vous dites, non, ça ne vaut pas la peine, là. Non, c'est pas vrai que c'est ça que je vais vivre. Donc, c'est beaucoup de sentiments comme ça qui viennent vous bousculer les premiers mois. Et parfois aussi, vous vous dites, mais non, je ne vais pas démissionner de ça. Là, je suis quelqu'une, là, je me suis dit, je vais vers un chemin. Oui, il y a des moments hauts, des hauts et des bas, là, mais ce n'est pas vrai que je vais abandonner. Je vais trouver une façon de me refaire une vie dans cette ère d'opportunité. Oui, ce n'est pas rose à tous les jours, là. Il y a des choses que nous vivons qui vont nous rappeler, peut-être pas que nous n'appartenons pas au cercle des décideurs, mais qui vont nous rappeler qu'on est différent des mondes qui peuvent nous permettre de faire des choses, parce que ça, c'est la réalité qu'on connaît ici, qui n'est pas présente chez nous. Et c'est des choses avec lesquelles on fait avec, on s'ajuste, et ce qui m'a aidé beaucoup là-dedans, c'est de rester positif. Je suis quelqu'une de très positive et de très déterminée. Et je me suis dit, c'est pas vrai là que je vais baisser les bras et pleurnicher. Parce que pleurnicher là, c'est pas vrai que ça fait partie de ma façon de voir la vie. Je célèbre chaque victoire. Pour moi, c'est des petites victoires qui créent des grosses victoires. C'est des acquis que vous célébrez qui vous poussent à aller chercher des plus grosses célébrations. Et... ça n'a pas été long. J'ai eu à faire des lettres à Michael Jean. J'étais dans une philosophie où je me disais, ça va prendre quelque chose pour que je commence quelque chose qui va me valoriser dans ce pays. Donc, ça n'a pas mis du temps. Je me suis retrouvée déjà à faire des bébés pendant que je me battais là-dedans. Mais malgré ça, je travaillais. Je me suis dit, ma vision à moi, c'était d'être sur le marché du travail, d'être active pour pouvoir avoir une expérience canadienne. Mais tout de suite, je me suis retrouvée à aller dans un domaine, à être acceptée dans une banque de la place. Mon background n'avait rien de banquier, là, parce que moi, j'avais fait 5 années d'université complétée en génie électronique. Donc, j'avais commencé par faire mes équivalents. On m'avait donné une banque de 4 années complétée en génie électrique au niveau du Québec. Donc, j'avais des projets qui étaient très différents de ceux que je fais aujourd'hui. Mais je vous dirais qu'en dedans de 2 ans, j'avais déjà commencé mon parcours. J'étais employée d'une banque de la place. Et je me suis dit, étant donné que j'aime bien communiquer, j'aime bien transmettre, autant j'étais déjà dans ce avec cet employeur-là qui m'encourageait à pouvoir financer des études, j'ai commencé à aller chercher comme une expertise. Donc, ça fait, je dirais, 14 ans là, que je suis avec l'employeur. Je suis rendue planificatrice financière aujourd'hui. Pendant ce temps, je continuais à sensibiliser parce que je rencontrais beaucoup de monde dans le cadre de mon travail. Et c'est comme ça que j'ai commencé à éduquer, à positiver, à faire croire aux personnes, comprenez le système, par exemple, comment on crée sa solvabilité, comment faire une stratégie pour acquérir sa première maison. Le régime d'épargne études au Canada, voilà des subventions qui sont disponibles pour vous. J'ai commencé à faire cette sensibilisation sans un but précis de créer quoi que ce soit. Et j'intervenais beaucoup dans d'autres structures en place là qui existaient déjà, que ce soit dans des bazars, le bazar Sainte-Catherine-Labourée de la Salle. J'étais bénévole pendant plus de 10 ans. J'intervenais dans plusieurs associations de façon ponctuelle. Et à un certain moment, je me suis dit, il fallait que je crée un parapluie sous lequel la vision que je portais par rapport à impacter de façon positive et concrète la vie des immigrants, je pouvais comme partir quelque chose qui reflèterait vraiment c'est quoi la façon que je voyais les choses. Et c'est comme ça qu'est née Bienvenue à l'immigrant. Donc, Bienvenue à l'immigrant, c'était vraiment un arc-en-ciel parce que c'est pas des immigrants venant d'Afrique, c'est des immigrants venant de partout dans le monde. Qui a vu le jour. On va bientôt avoir 5 ans en mars 2022. Et le but, c'était vraiment de toucher l'immigrant de façon concrète, là. C'était de combattre les préjugés, de créer une vague de solidarité, de se placer ensemble vers une vision, de positiver nos différences, de se donner des forces, d'empêcher cette dépression, je dirais, qui peut survenir lorsqu'un immigrant vient à peine d'arriver au Canada. Parce que les premiers mois, c'est les plus difficiles. Et le but de Bienvenue à l'immigrant aussi, c'est à la fin de redonner. Parce qu'on arrive, on a besoin d'être assisté, mais après ça, quand on est placé, il faudrait que la vague continue. Bienvenue à l'immigrant, nous avons présentement 2 adresses. Mais nous avons notre site internet, nous avons la page Facebook qui donne le lieu où vous pouvez vous rendre. Je conseille beaucoup de venir à notre nouveau local qui est sur le bâtiment de destination travail, sur la rue centrale, parce que c'est plus accessible. La rue Clément, l'accessibilité est plus ou moins complexe et nous sommes très heureux depuis le mois d'août. Nous sommes sur la rue centrale à Ville-la-Salle. Si vous connaissez, c'est le building de destination travail. Nous avons des bureaux là aussi. Nous avons une adresse courriel, vous pouvez nous contacter. Et vous pouvez aussi la page Facebook parce que nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. Nous faisons plusieurs activités à l'année. Donc, nous, on a besoin que toutes les personnes de bonne volonté qui disposent même d'une heure de temps par mois nous contactent et on va toujours avoir là une responsabilité qu'on se fera un plaisir de leur donner. Je pense que il est important de garder notre identité. Et le français fait partie de l'identité québécoise. Donc, pour moi, je trouve que s'il est important de conserver ce côté qui définit, en fait, l'identité première du Québec, j'ai toujours pensé qu'il était très important de ne pas perdre qui l'on est, de ne pas perdre son identité. J'ai des photos de mes parents parce que moi, j'étais très, très connectée famille et surtout mes parents parce que je dis toujours que ce que je suis aujourd'hui, ces valeurs, cette détermination, ce désir d'aider le prochain, c'est grâce à mes parents. Donc, pour moi, ça représente vraiment la base de ma vie et je me défierai jamais de ça. Là. C'est des grands portraits chez nous. Je vais dire merci déjà parce que c'est une opportunité d'échange et d'apprentissage aussi. Parce que je suis certaine que si on écoute toutes les capsules que vous avez, elles vont nous permettre de voyager juste à l'écoute. Donc je tiens déjà à féliciter et à remercier cette initiative. Je remercie aussi les auditeurs qui prennent le temps à travers leur écoute de se mettre à la place des autres. Parce que écouter l'autre, c'est déjà faire un pas pour mieux comprendre parfois ce qui nous effraie. Parce que je dis toujours, le rejet, la méchanceté vient beaucoup de l'inconnu. Des choses qu'on ne sait pas nous effraient. Le souhait que j'aurais à faire, c'est un souhait de respect, c'est un souhait de tolérance, un souhait de liberté. Nos différences ne devraient pas être une raison d'activer la haine, d'activer des actions négatives. Une société dans laquelle il y a communication, une société dans laquelle il y a tolérance, bénéficie à tout le monde. Que les gens comprennent que les actes qu'ils posent ont toujours des retombées sur eux-mêmes. Et lorsque l'humain va comprendre qu'en face de lui, il n'a affaire qu'à d'autres humains, indépendamment de leur couleur, de leur croyance, de leur prise de position, on ira vers un monde meilleur.
Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.